Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Très heureux de vous retrouver en ce lundi matin sur l'antenne de Radio Présence pour votre émission Vivante Église. Aujourd'hui, nous partons à la découverte ou à la redécouverte de la foi de François Mauriac. François Mauriac, célèbre auteur du catholicisme au XXe siècle, ses romans et ses poésies vont lui permettre d'atteindre une grande notoriété jusqu'à recevoir le prestigieux prix Nobel de littérature. C'était en 1952, mais Mauriac portait aussi une autre voix et celle-ci était catholique. Et c'est justement les convictions profondes de l'homme que nous allons étudier aujourd'hui avec Philippe Dazébrun, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut catholique de Toulouse et secrétaire de la Société internationale des études mauriaciennes. Bonjour Philippe Dazébrun.
Bonjour.
Et au cours de cette émission, nous verrons en quoi François Mauriac a agi en témoin de la parole de Dieu tout au long de sa vie. Puis nous étudierons en profondeur la relation de Mauriac avec Dieu à travers des thématiques larges que sont le péché, la Vierge Marie, la figure du prêtre, l'Eucharistie ou encore le pardon. Pardon. Philippe Dazébrun, vous publiez aux éditions Nouvelle Cité, Prier 15 jours avec François Mauriac. Mauriac, tout au long de sa vie, il a agi en témoin de la parole de Dieu.
Ah oui, constamment. Constamment, c'était un chrétien d'abord né dans le catholicisme. Ce n'est pas un converti. Mais il a connu, comme tout chrétien, effectivement, dans sa relation à Dieu, je dirais, des hauts et des bas, avec des moments où il a douté, et douté fortement, et puis il est revenu à Dieu. Et plus que de vivre cette spiritualité, comme tout chrétien, je crois, le fait dans son cheminement intérieur, il en a témoigné. Il en a témoigné en étant à la fois un journaliste brillant, de grand talent. On courait le jeudi pour acheter le Figaro littéraire parce que Mauriac s'exprimait dans le bloc-notes. Et puis, il fut aussi un chrétien engagé. C'est-à-dire que les événements du temps, et Dieu sait qu'ils furent secouants, perturbants, terrifiants du XXe siècle, l'ont engagé. Il s'est senti investi de cette parole qui était une lumière pour lui et il fallait qu'il en témoignât et qu'il défendît l'homme lorsqu'il souffrait. Voilà ce qu'il fut en tant que chrétien.
Vous disiez, Mauriac, il a douté. Au milieu des années 1920, il a connu une crise spirituelle et il évoque même dans un essai paru en 1928, « Souffrance du chrétien ». Et justement, en fait, c'est l'Eucharistie, c'est d'ailleurs un des chapitres que vous abordez dans ce livre, Prier 15 jours avec François Mauriac. Son rapport à l'Eucharistie, ça va lui permettre de se reconnecter avec la foi catholique, avec le Seigneur.
Oui, oui. Il a connu deux crises. L'une, je dirais, intellectuelle, et l'autre, un peu plus charnelle, je dirais. Intellectuelle, d'abord, dans les années 1910, où... sous l'influence d'un bon camarade de classe, qui fut d'ailleurs, qui eut la vocation et devint prêtre, hein, André Lacaze, fut tenté par ce courant qu'on appela le modernisme, qui fut teinté, je dirais, d'approches plus rationnelles, plus scientifiques, notamment des textes saints, des premiers temps de l'Église, enfin de la philosophie. Et ces lectures de Mauriac l'ont fait douter, je dirais, de la foi qui était la sienne au départ. Et puis, effectivement, ce qui l'a ramené à Dieu, ce fut toujours cette fidélité à la rencontre fondamentale qu'était pour lui l'Eucharistie. Chose qu'il a retrouvée après, effectivement, lorsqu'il eut la quarantaine, il a traversé effectivement un moment où il a douté de ce que le christianisme pouvait offrir de plénitude dans l'expression humaine. Je veux dire par là, et pour être plus clair, qu'il pensait que le christianisme tuait une forme de sensualité chez un être. Et par conséquent, ça a été pour lui également une crise aussi, je dirais, conjugale, dont il s'est sorti grâce à un prêtre qu'il a rencontré à cette époque-là, qui était l'abbé Altermann, qui fut un directeur au plein sens du terme, et qui l'a ramené, effectivement, à l'essence de sa nourriture spirituelle, qui était le Christ, et donc l'Eucharistie.
Cette nourriture spirituelle, il la décrit, vous le dites dans le livre, il parle d'émerveillement, de joie et de douceur.
Ah oui, 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 ça c'est une belle expression. Hein. Il dit aussi ailleurs que il porte le Christ sur son épaule, n'est-ce pas ? Il a l'impression de partir de la messe avec le Christ sur son épaule. Il faut bien se dire une chose, c'est que pour lui, la transsubstantiation, c'est-à-dire la présence réelle de Jésus dans le pain, il y croit fondamentalement, fortement. Si bien que chaque fois qu'il allait à la messe, et il y allait régulièrement près de chez lui, à l'abbaye de la Source, c'était pour lui aller au-devant de Jésus, dans cette rencontre fondamentale où il se sentait en plénitude avec le Seigneur.
Justement, l'Eucharistie, il se sent important aux yeux de Dieu. C'est ça aussi qui va le lier.
Ah oui, oui, c'est-à-dire que par cette rencontre, il est non seulement dans la plénitude de Dieu, et ça c'est très important, parce que la foi de Mauriac est une foi christique, avant toute chose. Hein. Mais aussi, il est dans la plénitude avec toutes ces âmes qui ont rejoint Dieu dans la mort, et âmes qu'il connut, ou qu'il n'a pas connues, mais qu'il a forcément, avec qui il est en lien, puisqu'il appartient à cette chaîne dans laquelle nous appartenons tous, hein, de l'humanité. Et pour lui, ce sont ces retrouvailles qui s'opèrent dans la communion, qui est aussi la communion des saints.
Tout à l'heure, vous parliez de la figure du prêtre. Chez Mauriac, elle est très importante. Vous disiez qu'il y a un prêtre qui l'avait aidé dans cette crise conjugale. Il a toujours été entouré d'hommes d'église, mais jamais la vocation de prêtre lui a traversé l'esprit.
Non, en effet, chose qui a été le cas de son frère Jean, qui a eu une vocation religieuse et qui est devenu prêtre. Mais Mauriac, non. Il a toujours été entouré, effectivement, de prêtres. C'était peut-être la seule présence masculine qu'il eut quand il était enfant, puisqu'il a perdu son père très tôt. Son oncle était son tuteur, certes, mais très éloigné, et pas du tout dans les options religieuses, puisque l'oncle Louis était plutôt républicain et anticlérical. Si bien que la seule présence masculine religieuse était celle des prêtres. Et donc, ils ont toujours eu un rôle tutélaire chez lui. Et comme il le dit, il n'a jamais rencontré chez un prêtre un mauvais prêtre. Il a toujours été émerveillé par le don qui était le leur, le don de sacrifice. Car ces hommes-là font le sacrifice de leur vie à Dieu. Et de cela, il était toujours émerveillé. Si bien que les prêtres qui l'ont, je dirais, guidé dans sa vie, qui lui ont permis d'avancer à la fois dans sa vie de croyant, mais aussi dans sa vie de citoyen, hein, puisque les expériences de Mauriac au sein de l'hebdomadaire 7, ou lorsque il s'est engagé beaucoup plus tard dans le combat de la décolonisation au Maroc, il y a toujours des prêtres ou des religieux autour de lui, hein, et qui l'aident à cheminer. Si bien que cette figure du prêtre, pour lui, est tout à fait essentielle, en plus du fait qu'elle est le Christ sur terre. Voilà. Pour lui, il n'attend rien du prêtre que d'être autre chose, et ce n'est pas mal, hein, c'est même l'essentiel, que d'être le Christ sur terre. Car le prêtre apporte deux choses fondamentales pour Mauriac. La première, c'est l'absolution. C'est la rémission des péchés. Et la deuxième chose, c'est la consécration lors de l'Eucharistie. C'est-à-dire qu'il permette au laïc qu'il est, par l'Eucharistie, de rencontrer le Christ.
On l'a dit, son frère, il était prêtre. Il l'a beaucoup guidé dans ce chemin de foi.
Oui. Et pas que chemin de foi, d'ailleurs, puisque Jean a été aussi assez déterminant dans le premier engagement de François Mauriac dans le catholicisme social. Jean Mauriac s'est engagé avant François dans le Sillon. Le Sillon était un mouvement créé par Marc Sangnier à la fin des années 90, 1890, et avec pour objectif, dans un premier temps, de réconcilier le catholicisme et le monde ouvrier, le prolétariat, dans la ligne droite de l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII de 1891. Et Jean Mauriac fut des sionistes, c'est ainsi qu'on les appelait, de la Gironde. Et il a entraîné avec lui François dans ce combat qui fut bref pour lui, mais la rencontre avec Marc Sangnier de Mauriac fut déterminante, il le dit d'ailleurs, hein, qu'il lui a donné à tout jamais une mauvaise conscience. La mauvaise conscience du bourgeois qu'il était à l'égard de ceux qui, que le destin ont laissé sur le bord de la route.
Dans ce livre, Prier 15 jours avec François Mauriac, aux éditions Nouvelle Cité, le premier sujet que vous traitez, c'est le sujet de l'incarnation. Vous écrivez que Mauriac s'est perdu à plusieurs reprises dans sa foi, qu'il a eu l'impression que ses prières étaient vaines et que Dieu lui a toujours répondu, malgré ses doutes. La foi de Mauriac, c'est un chemin qui est semé d'embûches.
Ah oui, mais avec toutes les fois son chemin d'embûches, oui. Quand même. Il n'y a jamais un parcours linéaire. Et effectivement, pour lui... Il y en eut, alors il y a eu toutes les épreuves que je vous disais tout à l'heure. Il y a eu aussi l'épreuve majeure d'un cancer de la corde vocale qui lui a donné par la suite, par l'ablation de cette corde vocale, cette voix ténébreuse qu'on lui connut. Et puis toutes les épreuves de la vie qu'on peut imaginer, la guerre, les guerres. Mmh. Et c'est vrai que chaque fois, il se ressourçait d'espérance dans cette parole, dans la bonne parole, dans l'évangile. Il y trouvait la source nécessaire à maintenir un cap personnel et un cap dans l'humanité. Parce que c'est pas tout de croire en son propre destin. Il fallait que il faut croire aussi en l'humanité. Mmh. Et Dieu sait que l'humanité nous donne quelquefois des démentis de l'espérance qu'on peut y placer par toutes les atrocités, et Dieu sait, enfin bon, qu'on en voit ces temps-ci. Mais lui conservait cette espérance parce que le Christ était venu apporter la bonne nouvelle. Et le Christ, c'est vraiment le personnage central de la foi mauriacienne. Il dit d'ailleurs qu'il n'aurait jamais atteint la notion de Dieu sans le Christ. Voilà. Le Christ, c'est la personne. C'est la personne qui lui permet de le prendre par la main et d'avancer tout au long de sa vie et jusqu'au terme.
Vous abordez aussi dans votre livre la question de la sainteté. Mauriac dit « La vraie souffrance du chrétien, c'est de ne pas être saint. » Tout au long de sa vie, il voulait accéder à la sainteté comme tout chrétien.
Ah oui, oui, c'est ça, il reprend une phrase de Blois. Et oui, je crois que le chemin que nous offre le Christ, et Mauriac en était très conscient, c'est la sainteté. Et comme on ne peut pas tous être des saints, eh bien, on fait de son mieux. Et pour lui, même si l'Église est faite de pécheurs, elle n'est sauvée que par les saints. C'est la raison pour laquelle, tout comme pas mal de chrétiens d'ailleurs, il attache beaucoup d'importance à certaines figures, n'est-ce pas, qui pour lui sauvent l'essentiel. Voyez, je suis en train de travailler ces jours-ci pour une journée d'études que nous allons consacrer à José Cabanis. José Cabanis dit la même chose. Hein. L'institution ecclésiale n'est sainte que par les saints. Et si, effectivement, l'histoire de l'Église montre certaines défaillances humaines, ceux qui sauvent l'Église, ce sont les saints. Voilà. Et ce sont des modèles. Alors, il a attaché suffisamment d'importance à certains saints pour en faire des sujets de biographie. Alors, on sait sa dévotion pour Saint François d'Assise, mais il a écrit une vie de Sainte Marguerite de Cortone. Ce qui le touche chez les saints, c'est qu'ils sont humains avant tout. C'est qu'ils ne se sont pas départis de leur humanité, qu'ils peuvent être pécheurs, mais qu'ils subliment par une adhésion totale et absolue au message du Christ, ce côté pécheur que tout homme a en lui. Et c'est en ça qu'il nous montre la voie. Et Mauriac s'attache à nous montrer des saints qui sont des hommes. Voilà, ça c'est fondamental pour lui. Parce que des saints désincarnés, personne ne peut s'identifier à eux. Et ce qui le touche, lui, c'est que ce sont des frères en humanité, mais des modèles aussi.
Il avait l'impression de servir le message du Christ en écrivant sur ses saints.
Oui, 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 je pense qu'il offrait, en écrivant, la vie de Sainte Marguerite de Caen. Il a écrit aussi, c'est le premier quand même, c'est le premier écrivain, romancier, à écrire une vie de Jésus. Et je pense qu'il aidait comme ça, ou du moins il pensait aider les chrétiens à trouver des voies. Je pense que la voie de la sainteté n'est pas la même pour tout le monde. Et il offrait, je dirais, à la fois des voies, mais aussi, plus que cela, je crois, des voies d'espérance. C'est-à-dire, voilà, il montrait comment l'humanité pouvait se sanctifier. Voilà. La vocation même de l'humanité, c'est la sainteté. Et il s'agit de prendre le texte de l'Évangile, l'Écriture, pour suivre les pas du Christ, et en suivant les pas du Christ, même si c'est compliqué, même si ce chemin-là est un peu caillouteux, avec quelquefois des escarpements, eh bien, il y a la voie la plus assurée de la sainteté.
La sainteté et la pureté, dans le livre vous écrivez qu'il regrette même la dévalorisation de la pureté, même dans les milieux catholiques, et même chez beaucoup de prêtres et de religieux. Il n'était pas un peu précurseur ?
Oui, ça c'est certain. Ça c'est certain. Oui, oui. Pour lui, la pureté, c'est un élément fondamental de la sainteté. Et alors, il appartient à une génération aussi qui a été très marquée par une éducation. Hein. Une éducation que je ne dirais pas janséniste, mais jansénisante. Voilà. C'est-à-dire qui attache beaucoup d'importance à notamment une pureté qui passe par le corps. Hein. Un rejet, notamment, de certaines pulsions. Et la pulsion la plus infamante, mais on est revenu beaucoup là-dessus, hein, c'est la pulsion sexuelle. Et donc, il appartient à cette génération-là. Ce qui fait que la pureté, pour lui, c'est essayer de reléguer au plus profond de soi-même ces pulsions-là qui nous ramènent à la nature. Alors, la nature, chez Mauriac, opère un élément contradictoire. C'est-à-dire qu'elle peut à la fois vous amener dans les tréfonds de vous-même et donc dans les bas-fonds, en quelque sorte, et vous enivrer de plaisirs qui sont vaporeux, dirait Baudelaire, ou en tout cas éphémères et inexistants, et amener votre âme effectivement à se perdre, ou bien vous pouvez épouser la nature dans ces moments qui vous ramènent à Dieu. Il y a un moment qui lui est très, qui le touche particulièrement, c'est le moment de Pâques. Pâques, c'est le moment où on voit la régénérescence de la nature, hein, où on voit les respirations de la terre qui renaît. Et pour lui, il y avait une heureuse coïncidence, pas tout à fait coïncidence, je dirais, fortuite, entre la renaissance de la terre et la résurrection du Christ. Vous voyez, comment la nature peut accompagner une spiritualité. Alors, voilà pourquoi Mauriac était extrêmement lecteur de Maurice de Guérin. Il trouvait chez Maurice de Guérin, effectivement, cette adhésion. Alors, on a dit effectivement un certain panthéisme, mais en tout cas à une conformité de la nature au dessein de Dieu dans ce qu'elle nous dit que Jésus va ressusciter.
Et justement, ce rapport à la nature, quel était-il entre Mauriac et la nature ?
Mauriac a grandi dans les espaces girondins où la nature était omniprésente. Il adorait les Landes parce que il savait ce que... Et du reste, quand vous regardez et quand vous lisez les livres de Mauriac, les romans de Mauriac, il est très étonnant de voir que les tourments de l'âme des personnages se mettent au diapason, ou c'est l'inverse, de la nature. Hein. Il y a un incendie dans la forêt, Et puis vous avez ces corps soulevés par certaines pulsions, vous avez ces orages intérieurs qui se lèvent et qui viennent poser toutes les questions existentielles, voyez. Et puis vous avez ces moments de paix que, après la fournaise de la journée d'été, vous retrouvez au bord d'un ruisseau parce que il respire la fraîcheur, voyez. Donc et vous avez un calme qui se fait au sein de votre être. Donc tout ça, Mauriac était très perméable à cet environnement naturel, parce qu'il a grandi dans cet environnement naturel, et un environnement naturel qui offrait les contrastes que nous connaissons, pour ceux qui aiment et connaissent les paysages aquitains.
C'était source d'inspiration pour lui ?
Oh oui, très fortement. Très, très fortement. Bordeaux, bon, il est né à Bordeaux. Bordeaux, il a grandi à Bordeaux. Bordeaux était sa ville natale. Mais une ville où il sentait qu'il y avait une prison. C'est-à-dire qu'il sentait très vite, je dirais, un milieu qui le corsetait, où il sentait que toute sa plénitude ne pouvait pas être offerte. C'est la raison pour laquelle, dès qu'il put le faire, c'est-à-dire vers ses 17-18 ans, il partit pour Paris. Et donc, Bordeaux était une forme de caserne, en quelque sorte. Et la liberté, il la trouvait justement dans le Langonnais, dans les Landes girondines. Vous voyez, c'était là où il se retrouvait en plénitude, avec lui-même, sous le contrôle de quoi ? Sous le contrôle des pins, sous le contrôle du ciel, sous le contrôle, vous voyez, de Dieu. Et c'était là qu'il était le mieux.
Philippe Blaise-Brun va faire une petite pause musicale. Après, on parlera de... Vous abordez beaucoup dans ce livre, et j'imagine que c'est une préoccupation de Mauriac, la question du mal, la question du péché. On parlera de ça juste après la pause musicale, mais on écoute la sérénade de Don Giovanni, chantée par Dietrich Fischer Disco.
Église, Timothée Rouvière.
Et avec Philippe Dazébrun, spécialiste de François Mauriac, la musique qu'on vient d'entendre, Mauriac l'aurait appréciée.
Oh oui, oh combien. C'était un amoureux éperdu de Mozart. Mozart a joué un rôle très important dans sa vie. Je vous disais tout à l'heure qu'il avait été atteint d'un cancer avec une ablation de la corde vocale et des douleurs. Enfin, on ne peut pas imaginer les progrès de la médecine et de la chirurgie depuis Mais enfin, donc il a terriblement souffert. Et il avait un jeune ami à l'époque qui venait le voir et arrivait avec des bras chargés de disques, et parmi lesquels il y avait des disques de symphonie, de Mozart, d'opéra de Mozart. Et c'est Mozart qui l'a aidé à surmonter toutes les épreuves physiques, morales du moment. Et il trouvait qu'il y avait chez Mozart un frère de... où il sentait l'âme de Mozart affleurer dans certains... De Giovanni, justement, de la flûte enchantée. Et Mozart l'a accompagné jusqu'à la fin. C'est un fervent de Mozart.
La question du mal, du péché, elle est très présente dans votre livre aussi, et j'imagine dans l'esprit de Mauriac, c'est quelque chose qui le préoccupait beaucoup ou l'intéressait.
C'est quelque chose qui le hantait.
Ah.
Il le hantait. Car il sentait bien que, certes, en nous-mêmes, nous avons le royaume de Dieu, mais nous pouvons aussi fermer la porte à ce royaume et entrer... dans des ténèbres. Et le mal, alors, il en explore, je dirais, toutes les possibilités. Pas seulement, d'ailleurs, dans ses essais, parce que, comme je suis historien, je m'attache à cheminer avec lui, avec Mauriac, sur la base de ce qu'il a écrit en tant qu'essayiste, en tant que journaliste. En tant que romancier, c'est un peu plus compliqué pour un historien, parce que le romancier offre des personnages, des paysages, des moments qui sont fictionnels, donc qu'il crée. Quelle est la part de vérité dans ces moments, dans ces personnages, de lui-même? C'est compliqué à démêler comme écheveau. Donc, je préfère le suivre sur ce qu'il affirme en tant qu'essayiste et journaliste. Néanmoins, les romans offrent une perspective qui est celle de la présence du mal en nous-mêmes. Et c'est quelque chose qui l'a hanté parce que il voyait bien que l'humanité se perdait. Et ce qu'il nous dit d'ailleurs, et qui fait l'espérance, je crois, permettez-moi l'épithète, mauriacienne, c'est que même lorsque tout est désespéré chez quelqu'un, lorsqu'on le sent mais vraiment terriblement pénétré du mal, il peut être sauvé. Quelques personnages comme ça le montrent dans son univers romanesque. Je pense notamment à un livre qui est peu connu de Mauriac, qui date des années 30, de 1936, si mes souvenirs sont bons, qui s'appelle « Les anges noirs ». Dans Les Anges Noirs, vous avez deux personnages qui vont finir par se rencontrer, qui sont un jeune abbé assez tourmenté, qui croit fortement à sa vocation, qui est l'abbé Forcas, et puis un sinistre individu, proxénète, assassin, enfin on voit très bien que là, il entre dans des noirceurs de l'âme assez terribles, qui s'appelle... Gabriel, Grader. Et ces deux personnages finissent par se rencontrer. Grader, à bout de course, frappe à la porte d'une maison. Il se trouve que c'est le presbytère d'Alain Forcas. Et Forcas le récupère en quelque sorte comme ça, comme un animal blessé, et lui offre un refuge. Et là, il y a tout un travail qui s'opère dans le dialogue de ces deux âmes qui se rencontrent. Et Grader finit par trouver Dieu. Vous voyez, donc, le message de Mauriac, ce n'est pas un Mauriac désespéré, ce n'est pas un message qui ferme la porte à l'espoir et à l'espérance. C'est de dire que oui, le mal existe, oui. Mais il faut être conscient, lucide de ce que nous sommes pour espérer fermer ce côté-là obscur de soi-même et se ressourcer à la parole du Christ, qui est la seule lumière qui puisse nous sauver. Donc en fait, il nous invite à une introspection, à une connaissance de soi-même qui nous permette en toute lucidité de voir le plus sombre de nous-mêmes pour l'anéantir. Et ce qui nous permet de l'anéantir, d'une part, c'est ce regard lucide, mais c'est aussi tendre la main à ce à quoi on a tourné le dos à un moment donné, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et là, Mauriac nous dit que Dieu ne peut pas tendre la main à son tour. Voilà. C'est là que se trouve la grande espérance mauriacienne. C'est le bon larron sur la croix qui reconnaît Jésus comme son sauveur.
Pour compléter ce que vous dites, il identifie le mal, il dit que l'origine de ce mal, c'est le refus de l'homme de se laisser occuper par la parole de Dieu dans sa volonté délibérée de se couper de l'amour.
Ah oui, c'est ça. C'est le refus. C'est dire non. C'est ça le mal. Et alors, ce qui est assez aussi révélateur d'un temps, mais aussi, je pense, d'une réalité, c'est que pour lui, le mal est quelqu'un. Le mal est incarné. Autant Dieu est incarné, le mal peut être incarné. C'est-à-dire qu'il peut prendre forme humaine. Et ça, c'est quelque chose que l'on sent aussi hein, dans d'autres veines romanesques, chez Bernanos ou chez quelques autres. Hein. Il appartient à cette génération d'auteurs pour qui le mal n'est pas une notion. C'est quelque chose de très palpable. Et c'est là qu'il en devient plus redoutable. C'est parce qu'il est dans notre quotidien. Il peut, voyez, se trouver dans les yeux de quelqu'un, vous voyez. Et donc, il faut toutes les ressources de sa propre connaissance pour savoir dire non. C'est-à-dire qu'on peut dire non au mal, mais on peut dire non à Dieu. Et c'est en disant oui au mal qu'on dit non à Dieu.
Comme tout chrétien, Mauriac au quotidien, il est confronté au mal, vous le disiez. Mais il y a des événements dans sa vie, je pense notamment en 1936, avec un massacre perpétré par les franquistes le jour de l'Assomption. Il dit que c'est un triomphe le plus affreux de la puissance des ténèbres. C'est vraiment un des événements majeurs qui va le relier à Dieu parce qu'il sent que ce mal existe, est très présent, et il y a simplement la parole de Dieu qui peut arriver à le sortir de ce mal.
Ah oui, oui, bien souvent dans l'histoire, hein, il a vu l'expression du mal se déployer. Alors, il l'a vu, je dirais, au milieu des années 30, pas pendant la guerre, bien évidemment. Ça, c'est, il a été. Alors, il n'a pas fait sa guerre comme un soldat, puisqu'il avait une pleurésie qu'il avait réformée. Mais il l'a fait en tant que brancardier et en tant que personnel de la Croix-Rouge. Il s'est d'ailleurs engagé sur le front de Salonique pour essayer d'être au plus près de ce qu'il pouvait faire. Et puis, le malheureux est revenu paludéen, donc ça a été terminé pour lui. Non, il l'a vu là parce que, effectivement, comme il avait à soigner les soldats qui étaient blessés sur le front, il a vu ce qu'était l'ampleur de ce qu'il pouvait vivre et la tragédie qui était la leur. Et puis, il l'a vu à d'autres échelles, pas au quotidien, comme ce fut le cas lorsqu'il était pris dans la Grande Guerre. Il a vu dans le quotidien en tant que journaliste et d'abord lors de l'affaire éthiopienne. Quand, pour lui, si vous voulez, l'invasion de Mussolini en Éthiopie a été un élément déclencheur. Et ce qui a été déclencheur chez lui, c'est un dessin qui est paru dans la presse de l'époque d'un caricaturiste célèbre qui s'appelait Sénèpe. Et qui a montré le Négus, c'est-à-dire l'empereur Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie, perché sur un cocotier avec des singes. Et pour lui, c'était le comble du racisme. Et croire que Mussolini entreprenait là une œuvre de civilisation, puisque c'était prétendument la civilisation qui imposait son règne à un peuple qui ne l'était pas civilisé, hein, c'était ce que pensaient certains Européens à l'époque, hein, y compris dans l'intelligence française et à l'Académie française. Hein, eh bien, il a été révolté de ce racisme-là exprimé, parce qu'il y voyait justement l'expression du mal. Idem, comme vous l'avez dit, lorsque pendant la guerre d'Espagne, il a vu l'Église d'Espagne être embarqué dans la cause franquiste qui perpétrait des massacres, mais à n'importe quel moment, parce que le massacre est propre, je dirais, à la guerre, hélas, mais que pour des gens qui se disent catholiques, le 15 août, perpétrer un massacre, c'était impossible pour lui. Et là, il y avait effectivement une expression du mal. Voilà. Et on l'a vu après, enfin bon, pendant la guerre, la seconde, quand, enfin, il entend à la radio, enfin, on va commémorer quand même une lettre lue en chair ici à Toulouse, écrite par le cardinal Saliège, puisque ça fait 80 ans qu'il fut écrite. Mauriac a entendu à la radio un reportage qui amenait ces juifs raflés par convoi, Dieu sait où, il n'en savait rien. Mais le fait d'entendre ces cris, le fait d'entendre le journaliste à la radio plaisanter sur tout ce qui se faisait, là, sous ses yeux, il s'est mis à genoux, il s'est mis à prier, à pleurer, parce qu'il sentait que là, le mal opérait. Le mal opérait. Et ça l'a hanté, mais constamment. Lorsque, en 1952, la police réprime une manifestation à Casablanca et que il sent là qu'il y a un traitement inhumain, qu'on ne traite pas l'homme en tant que frère, il sent le mal s'exprimer. Et c'est la raison pour laquelle on le voit après être un porte-parole de ceux qui luttent contre l'usage de la torture pendant la guerre du Maroc et pendant la guerre d'Algérie. Parce que pour lui, il a des paroles, mais très fortes. Je vous engage vraiment à lire ce texte qu'il prononce lors d'une semaine des catholiques, des intellectuels catholiques, qui s'appelle « L'imitation des bourreaux de Jésus-Christ ». Pour lui, les tortionnaires sont les bourreaux du Christ. C'est-à-dire qu'un tortionnaire qui est chrétien ne peut pas ne pas voir dans le visage de celui qui torture le Christ qu'il torture lui-même. Et il a une... C'est une conférence, mais à la fois, je dirais, d'une haute teneur spirituelle et bouleversante, bouleversante, qui font monter les larmes aux yeux tant on peut voir ici et maintenant, la répétition de ces tragédies et contre lesquelles Mauriac s'est toujours élevé. Là, il voyait effectivement l'expression du mal qui était personnifiée.
Le mal et le péché, ces deux notions extrêmement liées. Il dit le péché, c'est opposer en conscience un non à Dieu. Et il voit aussi le péché de manière différente, c'est quelque chose qui m'a un peu interpellé. Il va jusqu'à penser que le péché peut servir de socle sur lequel la bonification va possiblement vers la sanctification. Donc, le péché, il le voit comme une étape.
Oui, oui. Mais c'est, vous savez, le mal opère, mais pour que le mal devienne péché, il faut deux étapes. La première, avoir conscience du mal.
Il en a conscience.
Et il en a conscience. Et la deuxième, c'est que il faut renoncer à ce mal. Et le péché devient une opportunité, c'est-à-dire l'opportunité de se racheter. Et donc, le mal ferme la porte à Dieu, le péché peut l'entrouvrir. Il n'appartient qu'à nous-mêmes de faire en sorte que ce péché, qui est la prise de conscience du mal, qui peut nous prendre, eh bien, soit le moment où eh bien, on se régénère, on se ressources, on devient un autre. C'est ça toute la puissance du pardon et du sacrement de la réconciliation. C'est qu'on peut devenir un autre. Et Mauriac était mais follement attaché à cette perspective et l'Eucharistie, encore une fois, pour y revenir, lui permettait de l'enhardir, de le conforter dans cet élan-là et dans cette, oui, dans cette régénération à laquelle il aspirait.
Philippe Desébrins, on va faire une nouvelle pause musicale. On revient dans 3 minutes. On parlera notamment de la Vierge Marie qui a fortement influencé Mauriac. Mais juste avant, on écoute L'ombre de Juliette Gréco. Et restez bien à l'écoute parce que ça va peut-être vous parler. Mmh.
Au jour où la chaleur arrêtait toute vie. Quand le soleil saoulait la bourre exténuée, pressait contre son cœur le vignoble muet. À l'heure où des faucheurs l'armée anéantie écrasait l'herbe sous des corps crucifiés, seul debout en ces jours de feu et de poussière, en face du sommeil accablé de la terre, assourdi par le cri des cigales sans nombre, je cherchais votre cœur comme je cherchais l'ombre.
Présence à Gourdon, 104.8.
Vivante Église, Timothée Rouvière.
Et avec Philippe Dazébrun, spécialiste de François Mauriac et professeur d'histoire contemporaine à l'Institut catholique de Toulouse, je vous ai vu esquisser un petit sourire. Ce texte de Juliette Gréco,
ah oui,
c'est celui de Mauriac avant tout.
Eh oui, ce sont les paysages de Mauriac, hein, où on sent toute la fournaise des Landes, la vigne aussi, puisque Mauriac était propriétaire d'une vigne et produisait du vin à Malagar. Je vous incite d'ailleurs à visiter la maison de Mauriac près de Langon, et avec ses étendues de vignes devant la terrasse de Malagar. Et Mauriac aimait beaucoup d'ailleurs Juliette Gréco, il parlait d'elle, ce beau poisson noir. Voilà, le beau poisson noir.
Mauriac, il l'aimait aussi beaucoup et il idolâtrait aussi beaucoup la Vierge Marie. Et c'est aussi un mot qui peut prêter à sourire. Il parlait de Mariolatrie.
Oui, oui, Mariolatrie. Pourquoi ? Parce que Mauriac. Bon, Mauriac est un fils du 19e siècle. Hein. Il est né donc en 1885 et il arrive au monde après un siècle très marial, hein, où la Vierge Marie est apparue à de nombreuses fois en France et où le culte de la Vierge se développe considérablement. Considérablement et quelquefois un peu en marge de la théologie, hein. Donc en donnant à la Vierge Marie des mérites qui, pour certains, lui paraissent contestables. Et Mauriac a grandi dans ce culte de la Vierge Marie. On le voit très bien, il reconnaît toutes les vierges sulpiciennes, celle de la médaille miraculeuse, celle de Notre-Dame de Lourdes, voilà. Il est très attentif à cela. Mais il est vrai que... Il était assez irrité par une forme de vénération autour de la Vierge Marie qui ressemblait, selon lui, à une forme de superstition. Et que on attribuait à la Vierge Marie des vertus, des mérites qu'il pouvait penser être abusifs. Si bien que il a été très heureux du mouvement qu'on a connu au cours du XXe siècle, où la mariologie a trouvé des ressourcements et ses ressourcements dans la théologie et notamment dans la théologie, dans la christologie. Voilà. Si bien que Mauriac a retrouvé une foi et je dirais une vénération à la Vierge Marie par toujours la bascule qu'il pouvait faire par le Christ. Et il a été très très marqué par un texte qu'il avait lu du Père Danielou, où le Père Danielou reprenait un passage de Pierre de Bérulle, cardinal de Bérulle, où il disait que finalement que ce qui était la meilleure des choses pour la Vierge Marie, c'était le silence. Ce qui devait entourer la Vierge Marie, c'était le silence. Et Mauriac s'accommodait bien de cela. Si vous voulez, il pensait effectivement que cette femme sublime, merveilleuse, extraordinaire, sainte, s'il en est, ce qui lui convenait le mieux, c'était le silence qui devait l'entourer. Le silence parce qu'elle avait tout donné, y compris ses chagrins les plus ultimes, au oui, au fiat initial. Et que, autour de cela, qu'est-ce qu'on peut dire ? Rien. Sinon, être à la fois éperdu d'admiration et se confondre en vénération, mais ne rien ajouter. La simplicité de la foi suffit.
Cet attachement à la Vierge Marie, c'est pour compenser une mère peut-être absente, ses relations avec sa mère
Elle n'était pas absente, sa mère. Elle a été même trop présente, je dirais, chez Mauriac.
Donc, il cherchait un échappatoire aussi.
Oui, ça c'est certain. C'est-à-dire que il trouvait chez la Vierge Marie la mère consolante. Les relations de Mauriac avec sa mère étaient très très ambiguës, c'est-à-dire contradictoires. À la fois, il a trouvé qu'elle était assez étouffante à bien des égards. C'était le dernier né. Celui qui n'a pas vécu sous l'autorité de son père, quasiment, puisque son père meurt alors que le petit François n'a que 20 mois. Donc la mère a été omniprésente, et omniprésente y compris dans la foi chrétienne, dans une foi, comme je le disais tout à l'heure, très austère, très, 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 très exigeante. La prière du soir était immanquable et il fallait s'endormir les bras en croix sur la poitrine au cas où la mort vienne à vous surprendre pendant la nuit. C'est vous dire qu'on ne grandit pas, je dirais, dans une très grande sérénité psychologique. On est au contraire assez effrayé de l'environnement. Mais néanmoins, cette figure matriarcale a été considérable pour lui. Il vivait les séparations d'avec sa mère quand il était enfant et quand il est allé ensuite dans les premières classes, n'est-ce pas, à Bordeaux, dans ce qu'on dirait aujourd'hui la maternelle, mais qui était le jardin d'enfants autrefois. Eh bien, il vivait ces séparations, mais douloureusement, très douloureusement. Mais d'un autre côté, il savait en grandissant le poids qui fut le sien sur sa formation. Et partir pour Paris fut aussi une façon de quitter cette emprise, cette autorité maternelle sur son esprit. Et donc la Vierge Marie était effectivement la mère consolatrice, la mère à qui on dit tout et qu'on ne dit pas à sa propre mère, vous voyez, et qui sert d'intercesseur, puisque pour lui, c'est l'intercesseur fondamental, à celui qui, encore une fois, est sa lumière.
Un dernier sujet que je voulais aborder, il nous reste 3 minutes d'émission, ça passe très vite. Tout au long de sa vie, à travers ses ouvrages, il va témoigner d'un message d'espérance. Bon, il y a que c'est à ça qu'on peut le résumer.
Ah oui. Je pense que je me suis intéressé à Mauriac, bon, pour bien des raisons, y compris, je dirais, des raisons plus hédoniques, c'est-à-dire le style de Mauriac, qui est d'une saveur, mais incroyable. Enfin, moi, j'encourage tous ceux qui n'ont jamais lu Mauriac à commencer par lire ses romans, qui sont d'abord très pénétrants d'un point de vue psychologique, et puis remarquablement bien écrits. Enfin, la littérature d'aujourd'hui n'offre pas en grande partie la qualité stylistique d'un Mauriac. Donc il y a cet enivrement, je dirais, de l'esprit d'être emporté par une façon d'écrire. Mais il y a aussi ce message que je disais tout à l'heure, qui est qu'il ne faut pas désespérer de l'homme. Si l'homme est quelquefois irritant, agaçant, cruel même, cruel, et on en voit encore aujourd'hui des illustrations, il ne faut jamais désespérer de lui, jamais. Parce que la lumière peut toujours l'éclairer, et il faut porter la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il a témoigné. C'est pour ça que, même avec des incroyants, il ne cessait de parler du Christ. C'est étonnant quand on voit la correspondance qu'il a avec des incroyants. Georges Duhamel, Jean Paulhan, il leur parle du Christ, il leur parle de sa relation au Christ. C'est un témoin. Il ne faut jamais renoncer à être un témoin. C'est ça la grande espérance de Mauriac.
Il parle aussi beaucoup d'amour.
Ah oui, mais c'est consubstantiel. C'est l'espérance.
Les deux sont liés de toute façon.
Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire que si on n'est pas pénétré de la conviction, de la certitude que au-delà de tout il y a l'amour et que à la fin de tout il y a l'amour, mais la vie n'a pas de sens, n'a aucun sens. C'est désespérant. L'espérance, c'est l'amour.
Et on finira sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Philippe Dazébrun, d'avoir été mon invité.
Merci.
Merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis. Je rappelle le titre de votre livre, Priez 15 jours avec François Mauriac, aux éditions La Nouvelle Cité. Merci beaucoup à Jonathan Botello qui a remplacé Christophe Aubry à la technique. Je vous retrouve demain pour une nouvelle émission et on parlera de la semaine de la famille au sein du diocèse de Toulouse. Passez une très belle journée à l'écoute de Radio Présence.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.